France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Le roman avait connu un beau succès à sa parution en 2015. Amour de Léonore de Recondo devient La Condition, sous la caméra de Jérôme Bonnel. Le réalisateur et la comédienne Louise Chevillotte seront mes invités à partir de 13h. Mais d'abord, place à la critique. Aujourd'hui, on parle musique classique avec une nouvelle création du duo Minkowski-Pelli, Robinson Crusoe au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis, un disque chez Alpha Classics, le Tédéum pour Notre-Dame, composé par Thierry Esquèche et dirigé par Alain Altinoglou. Vous écoutez les Midis de Culture, j'en étais sûre. Et pour débattre autour de la table, aujourd'hui, Emmanuel Giuliani, critique et journaliste à La Croix. Bonjour.
Bonjour Marie.
Emmanuel Dupuis, journaliste et critique pour le magazine Diapason. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Vous venez d'entendre un extrait du Te Deum pour Notre-Dame, composé par Thierry Esquèche, dirigé par Alain Altinoglou. Le disque sorti chez Alpha Classics a été enregistré le 12 juin dernier, le jour de la création mondiale de cette œuvre sacrée dans la cathédrale, en conclusion des festivités de réouverture de l'édifice. Le compositeur Thierry Esquèche est aussi l'organiste titulaire de Notre-Dame. Il accompagne ici les 180 musiciens de l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort, dirigé par Alain Altinoglou, ainsi que les chœurs d'enfants de la maîtrise Notre-Dame de Paris et les chœurs d'adultes de Wrocław. On commence par un avis rapide, Emmanuel Dupuis.
Pour moi, c'est une œuvre d'une importance historique absolument capitale, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on compose un Te Deum pour la consécration d'une cathédrale, en l'occurrence en plus le Notre-Dame de Paris. C'est une œuvre d'une très grande élévation spirituelle, d'une très grande élévation musicale. Pour moi, c'est le grand oratorio français de ce début du XXIe siècle.
Emmanuel Giuliani.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. C'est une très bonne idée et une belle réussite d'avoir réussi à le capter, parce que vraiment la profusion sonore, la délicatesse de certains moments, la grande ampleur d'autres, les interventions, on y reviendra certainement, magistrales de Thierry Esquèche aux grandes orgues de Notre-Dame de Paris, parce que c'est aussi, en plus d'un grand compositeur, un immense organiste, un très grand improvisateur, font de cette œuvre, oui, une œuvre monde.
Alors je propose, avant de continuer à parler de ce disque, qu'on écoute un extrait que vous avez choisi, Emmanuel Dupuis. Te Deum pour Notre-Dame, on vient d'entendre un extrait de Nuit de Feu qui est au début de ce disque. Emmanuel Dupuis, qu'est-ce qu'on entend? Pourquoi vous avez choisi ce passage-là en particulier?
Parce que justement, Nuit de Feu, ça fait référence à deux choses. D'abord, le terrible incendie qui nous a tous bouleversés, et la Nuit de Feu mystique de Pascal, qui ensuite a été reprise par de nombreux auteurs, encore récemment Eric Emmanuel Schmitt. Et voilà, et cette œuvre, en fait, c'est un grand cheminement du feu destructeur vers le feu rédempteur, vers le feu de la foi, vers le feu qui a animé tous ceux aussi qui ont participé à la reconstruction de la cathédrale. Et ce qu'on entend aussi dans cet extrait, c'est que cette foi que nous donne à entendre Thierry Esquèche, c'est une foi intranquille, même tumultueuse. Et ça, ça prend vraiment au trip.
Il y a plusieurs mouvements, j'imagine, tout au long de ce disque. Est-ce qu'on peut le décrire un peu, ce disque, dans sa globalité, Emmanuel Giuliani?
Alors, en effet, comme Emmanuel l'a dit, c'est véritablement un cheminement. Un cheminement de la destruction à une forme de salut et d'espoir. Un cheminement musical qui passe par des grandes apothéoses, des grands tumultes, des grandes tempêtes, des grands fracas, même, c'est un terme qu'emploie le compositeur à dessein. On sait que Thierry Esquèche est un compositeur qui n'hésite pas et qui s'entend très bien dans son œuvre symphonique comme dans son œuvre opératique à manier des très grandes masses et à le déferlement sonore ne lui fait pas peur. Il le maîtrise comme un rodin ou un voilà qui arrive à mettre les mains dans la matière pour faire des très grandes choses. Vraiment, c'est pas un minimaliste, loin de là, mais il en a les moyens. Donc c'est évidemment très impressionnant. En plus, comment dans un cadre comme Notre-Dame, immense, avec une acoustique toute particulière, et qui évidemment incite à la fois au grandiose, au solennel, mais dès que l'œil porte sur tel ou tel détail, surtout maintenant que la cathédrale est rénovée, toute blanche, on peut, face à la Pietà de Louis XIII, regarder un des doigts de la Vierge et on peut y rester pendant 3 heures à contempler un détail, tout en étant dans un immense vaisseau. Et c'est ça que ce cheminement traduit très bien, c'est les allers-retours permanents entre voix d'enfant, voix d'adulte, solo instrumental et grande masse sonore, orgue et autres instruments, et donc en permanence, on passe du collectif à l'individuel, de l'extérieur à l'intérieur, du grandiose à l'intime, de la frayeur à l'espoir. Et donc, c'est un chemin qui a sa grande arche, mais qui a aussi en permanence des micro-événements, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas un instant parce qu'on est sollicité, toute l'écoute est constamment sollicité par ces contrastes permanents.
Emmanuel Dupuis.
Oui, alors moi je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je pense que la dernière fois qu'on a composé une œuvre aussi importante pour la consécration d'une cathédrale, c'était en 1962, ce qui ne nous rajeunit pas. C'était pour l'inauguration de la nouvelle cathédrale de Coventry, et c'était le War Requiem de Britten. Et je fais un parallèle entre les deux œuvres parce que, tout comme Britten, Esquèche ne se base pas uniquement sur le texte sacré, sur le texte latin. Il a fait appel à une poétesse qui s'appelle Nathalie Naber, et qui qui a écrit un très très beau texte, alors qui mêle évidemment des références liturgiques, des références sacrées, mais aussi des références à Claudel, à Peggy, à Victor Hugo, c'est-à-dire des auteurs qui ont été liés à Notre-Dame de Paris. Et c'est sur ce texte donc que Thierry Esquèche bâtit ce grand cheminement qui se termine à la fin par une partie qui s'intitule « La flamme percera ». Donc là, la boucle est bouclée, on commence par la nuit de feu et ça se termine par la flamme percera. Alors cette flamme, c'est quoi? C'est sûrement les langues de feu de l'Esprit-Saint, de la Pentecôte, probablement. Mais alors après, là, on parle beaucoup de termes liturgiques, certes, mais comme beaucoup d'œuvres sacrées, cette œuvre a le pouvoir de toucher les pires des mécréants. On n'a pas besoin d'être croyant pour vibrer au Requiem de Mozart ou aux Passions de Bach, heureusement. Et là, c'est vraiment le cas, parce que en plus, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette foi que Thierry Esquèche nous donne à entendre. C'est une foi tumultueuse qui résonne avec les fracas du monde contemporain, et c'est la raison pour laquelle c'est une œuvre qui peut vraiment parler à tout le monde.
Alors vous disiez le plus grand oratorio de ce début du 21e, en quoi justement ça peut parler à tout le monde? En quoi cette œuvre aujourd'hui s'inscrit dans une modernité, une contemporanéité d'ailleurs?
D'abord, il faut dire que Thierry Esquèche s'inscrit dans une tradition musicale française qui n'est pas révolutionnaire, qui ne renverse pas la table, c'est-à-dire il reste quand même dans une forme de tonalité, d'harmonie, Donc c'est une œuvre qui reste abordable, contrairement à beaucoup d'œuvres de musique contemporaine qui sont parfois expérimentales et qui ne touchent pas un grand public. Il y a ce texte qui est vraiment très touchant et qui aussi peut toucher tout le monde. Et puis il y a l'effet tout simplement que produit cette masse sonore extrêmement importante avec les chœurs, l'orchestre, l'orgue. Alors l'orgue, ce sont trois versets que joue Eskech lui-même au milieu de, enfin entrecoupant les mouvements choraux et symphoniques. Alors ces versets apportent des plages d'apaisement, mais là aussi c'est un apaisement tout relatif parce que Eskech exploite toutes les ressources du grand Cavaillé-Coll de Notre-Dame, qui a été miraculeusement sauvé de l'incendie, mais qui a été totalement rénové, et il le fait sonner dans toute sa splendeur, voilà, on est forcément, on est happé de certaine manière par cette œuvre. On ne peut pas s'en décrocher. Moi, j'ai commencé l'écoute et je suis allé jusqu'au bout et je l'ai réécouté tout de suite parce que c'est une œuvre qui vous prend la gorge, tout simplement.
Alors, elle a été donc enregistrée le 12 juin. Emmanuel Giuliani, vous étiez
à
Notre-Dame.
Oui. Alors, évidemment, toutes les émotions se mêlaient, le fait d'être dans cette cathédrale, même si elle avait réouvert quelques mois avant, mais d'y voir une musique aux dimensions, en effet, du bâtiment, et qui, comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, reprenait, et il le veut, Thierry Eskech, il le dit bien dans le programme, j'ai souhaité que soient évoqués des personnages ayant participé non seulement au culte, mais à la culture de Notre-Dame. Ouais. On pense évidemment à Hugo, pas uniquement le Hugo de Notre-Dame de Paris, le Hugo de la légende des siècles, voilà. Charles Péguy, notamment avec le porche du mystère de la deuxième vertu, qui est cette flamme percera, dont Emmanuel a parlé, mais aussi des textes plus contemporains et des références à la solennité, mais pas à la solennité triomphante du Te Deum. C'est un triomphe qui est lourd de toutes les duretés du monde, de toutes celles qui sont passées, présentes et qui peuvent advenir, mais qui malgré tout veut continuer le chemin. Et ce qui est très beau également, et on l'a eu au moment de la création et on l'a à l'écoute de l'enregistrement, ce que vous avez aussi évoqué, Emmanuel, c'est la très grande spiritualité, mais la très grande sensualité de cette musique.
Tout à fait.
Parce qu'au début, on entend des marimbas, on a un croisement entre les contrebasses qui évoquent un lac obscur, on descend vraiment au tréfonds de tout ce qu'il peut y avoir de pire et de plus inquiétant, et émerge tout à coup une voix d'enfant. Il n'y a pas de partie soliste, sauf à la fin où une voix d'enfant, un peu justement par exemple à la Brittonne dans la légende de Saint-Nicolas, voilà, où on a une voix d'enfant et dit comme ça, ça pourrait paraître un peu mièvre. Ça l'est absolument pas, parce qu'il y a toujours une noblesse, une tenue, une manière d'avancer qui est très très belle et qui véritablement crée de l'émotion, des sensations purement physiques, des sensations affectives et puis et plus spirituelles si affinité. Mais il nous laisse une très grande liberté.
Et vous disiez que Thierry Eskech est un grand improvisateur. Oui. Alors ça, on est surpris. Il improvisait ce jour-là.
Il a des trames qu'il a définies, qui sont des transitions qui reprennent un peu résumé de l'épisode précédent et annonce de l'épisode suivant. Et puis aussi, il charrie en tant que compositeur et interprète, toute l'histoire de la musique, de l'orgue, mais de la musique en particulier. Donc évidemment, on se disait, oh ben là, Bach n'est pas loin, ici un peu de Franck, ici. Mais tout ça, de manière là aussi très libre, très dans un véritable flux, qui invitait à aller de l'avant. Voilà, c'est une œuvre qui nous montre que l'écoute est aussi une activité, n'a rien de passif, et que quand une musique nous parle et qu'elle nous prend par la main, non pas de manière didactique et impérieuse, mais de manière amicale, elle nous incite à marcher et à aller de l'avant. Voilà, je trouve que c'est une œuvre qui avance.
Oui, c'est une œuvre qui avance, c'est une œuvre d'espoir, de toute façon. C'est une œuvre qui ouvre vers l'espérance. Alors une fois encore, qu'on soit croyant ou non, ça n'a aucune importance. Et puis il faut louer aussi la qualité des interprètes et la ferveur avec laquelle Alain Altinoglu dirige cet ensemble qui est absolument pléthorique. Et bon. On peut s'étonner que ce ne soit pas un orchestre français.
Oui, c'est Francfort.
Bon. C'est l'orchestre de la radio de Francfort. Bon, pourquoi pas. Mais bon, à part ça, bon, c'est un orchestre excellent. Hein. C'est pas du tout le problème. Mais Alain Altinoglu parvient à fédérer toutes ses forces musicales, ce qui n'est pas évident dans une acoustique aussi compliquée que celle d'une cathédrale. Et là encore, le résultat sonore est très impressionnant.
Et pour Henri Chalais, pardon, et la maîtrise de Notre-Dame, oui, ça a été aussi une formidable aventure. Ils sont rejoints donc par le chœur de Wroclaw, dirigé d'ailleurs par Lionel Sault, précédent directeur de la maîtrise de Notre-Dame. Voilà. Donc tout ça aussi est très tenu dans une ferveur commune.
Te Deum pour Notre-Dame, composé par Thierry Esquèche et dirigé par Alain Altinoglu, disponible chez Alpha Classics. Emmanuel Giuliani, c'est le coup de cœur pour le coffret Louis Couperin, The Complete Works.
Oui. Alors, si vous me permettez l'exercice, pour parler de ce coup de cœur, j'ai envie de feuilleter les premières pages.
Allons-y.
Alors, d'abord, la couverture, fond noir, visage flou, penché. On se dit que ça va être grand, noble, sans doute un peu difficile, voire austère. Mais si on se met à bien regarder, apparaît ce beau profil et... voilà, invite à aller plus loin. Si on retourne la couverture, on a un extrait d'une partition qui évoquerait aussi bien un poème d'Apollinaire qu'un graphisme. Enfin, c'est magnifique, mystérieux, on se dit on veut encore aller plus loin. Après, on a Louis Couperin, ses dates, The Complete Works. Donc on comprend que c'est une somme, c'est en effet un gros album et donc là encore un grand voyage qui nous invite. On tourne encore la page et on a Jean Rondeau et Aline Blondiot. Aline Blondiot qui s'est occupée de la partie de production sonore, de l'édition et du mixage, Jean Rondeau étant le claveciniste mais aussi le directeur artistique. Et on voit que le son, l'interprète et le son vont être absolument capitaux. On tourne encore et on voit qu'il y aura d'autres œuvres que celles de Louis Couperin, de ses contemporains, Chambonnière, Dufaux, Froberger, Lemoine, etc. Et enfin, on tourne et on voit d'autres interprètes, des chanteurs, des gambistes, des hautboïstes. Donc ce sera évidemment le projet de Jean Rondeau et d'Aline Blondiot, mais aussi avec d'autres complices. Et je crois que quand on a feuilleter ça, on est prêt à s'immerger dans cette très très grande aventure, absolument admirable, d'une grande élévation et parfois on se dit « je peux pas écouter ça d'une oreille distraite », mais c'est somptueux et là aussi il y a une volupté sonore et je crois que l'extrait qu'on va entendre avec ce clavecin absolument magnifique, Jean Rondeau a choisi plusieurs clavecins, il explique tout ça de manière très informée, on voit que c'est un instrument absolument sublime et là qui roucoule comme un oiseau et j'ai adoré particulièrement, s'il fallait choisir un extrait, je me suis dit que celui-là était très très évocateur.
C'est parti. C'était donc votre coup de cœur, Emmanuel Giuliani, Louis Couperin, The Complete Works, par le claveciniste Jean Rondeau et compagnie, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
12h, 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Voilà plus de 25 ans qu'ils travaillent régulièrement ensemble, et c'est souvent pour monter un Offenbach d'ailleurs. Le metteur en scène Laurent Pellier et le chef d'orchestre Marc Mikowski s'attaquent cet hiver sur la scène du théâtre des Champs-Élysées à l'opéra comique Robinson Crusoe. Une œuvre rarement jouée, qui n'a pas connu le succès des opérettes d'Offenbach et qu'il a fallu retravailler, moderniser, notamment pour la débarrasser de ses scories racistes. Dans le rôle de Robinson, le jeune ténor malgache Saïratia, dans celui de vendredi, la mezzo Adèle Charvet. On commence par un avis en quelques mots, Emmanuel Giuliani.
Alors, on reviendra en effet sans doute sur cette modernisation qui, moi, m'a bien plu, m'a amusée. Pose question quand il s'agit de redécouvrir une œuvre que l'on entend rarement. Ce qui m'a véritablement emballé, c'est l'adéquation scène-fausse plateau vocal. Pour une œuvre, une partition vraiment très intéressante, pleine de charme, avec des ensembles à la Offenbach, c'est-à-dire un véritable délice, et une excellente distribution vocale, et à nouveau un grand coup de cœur pour le ténor Saïratia qu'on avait entendu. On était d'ailleurs ensemble, Emmanuel, si je me souviens bien, à Nice dans Satyagraha de Phil Glass, où il était déjà magique. Alors là, c'est une autre magie, mais quel artiste!
Ah, Emmanuel Dupuis.
Oui, enfin, je pense que la distribution vocale, ils sont tous absolument excellents. Et je pense que c'est un spectacle extrêmement réjouissant sur le plan de sa réalisation dans tous les domaines, que ce soit sur le plan théâtral, sur le plan vocal, sur le plan musical. Mais moi, je mettrais quand même une réserve. Je trouve que c'est quand même un spectacle frustrant, mais ça ne tient pas aux interprètes. Mmh. Ça tient, je crois, au livret qui comporte quand même quelques faiblesses dramatiques.
Emmanuel Giuliani.
Alors, moi, je n'ai pas vraiment trouvé... Alors, je dois avouer ici, sur une grande chaîne culturelle, j'ai honte, mais tant pis, je n'ai jamais lu Robinson Crusoe. J'ai lu une version quand j'étais petite, dans la bibliothèque expurgée, etc. Mais le vrai roman, si je puis dire, je ne l'ai jamais lu. Je me dis d'ailleurs qu'il va falloir que je le fasse. Donc, et je ne connais pas non plus les détails absolus du véritable livret de Meillac et Halévy. Donc, je suis arrivée avec une innocence totale, une ignorance totale plutôt qu'une innocence, et donc j'ai pris pour argent comptant ce qui m'a été offert, et ça m'a bien plu, même si je suppose en effet que pour un opéra du 19e siècle, un naufragé sur une île déserte, issu aussi de la tradition du roman source Robinson Crusoe, devait, dans les rapports entre Robinson et Vendredi et Robinson et les sauvages, avoir des choses qui ont été gommées pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais qui, en tous les cas, moi, ne m'ont pas gênée. Et j'avoue que le plaisir de tous ces chanteurs qui s'en donnent à cœur joie, de la beauté de la partition, de la direction de Marc Minkowski, qui est tellement jouissive, profonde et délicate à la fois. Et puis on a l'impression qu'on va entendre la barcarolle des contes d'Hoffmann, tant l'orchestre vous en offre le prélude, une très belle instrumentation. Et moi, j'ai pas trouvé qu'il y ait de faiblesse dramatique, Emmanuel, même au début.
Emmanuel Dupuis.
Moi, si, parce que, il faut savoir quand même qu'Offenbach a écrit ses plus grands chefs-d'œuvre pour des théâtres privés, le théâtre des variétés, le théâtre des bouffes parisiens, où il avait une liberté totale. Nonobstant la censure impériale à l'époque. Mais le rêve d'Offenbach, c'était malgré tout d'accéder à l'opéra comique, parce que c'était une forme de consécration. Et donc en 1867, enfin, il y arrive, puisqu'il reçoit cette commande de ce Robinson Crusoe. Et il travaille avec deux librettistes qu'il connaît mal. Il s'agit d'Eugène Cormand et d'Hector Crémieux. Et la sauce ne prend pas. Parce que sur Robinson Crusoe, évidemment, ça n'est pas une œuvre sérieuse. C'est une œuvre qui prend beaucoup, beaucoup de distance avec le roman originel. Mais ça n'est pas non plus très drôle. Il y a un manque de fantaisie. Et le résultat, c'est que l'œuvre d'ailleurs a été retirée de l'affiche au bout de 32 représentations, ce qui était très peu à l'époque. Et en fait, ce qui manque, c'est Henri Meillac et Ludovic Halévy, c'est-à-dire les deux librettistes avec lesquels Offenbach a le plus travaillé, avec lesquels il a composé ses plus grands chefs-d'œuvre, qui étaient deux génies de l'ironie, de la parodie, de la satire. Et ça m'a manqué. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs dès le premier acte. Il y a des longueurs et ça continue par la suite. Et bon, après je rejoins Emmanuel. Il y a des merveilles musicales dans la partition, parce que l'Opéra Comique avait mis à la disposition d'Offenbach son orchestre, qui était un orchestre d'élite. Il avait mis à la disposition d'Offenbach sa troupe de chanteurs absolument excellents. Il faut savoir par exemple que le rôle de Vendredi a été créé par Célestine Gallimarié. Célestine Gallimarié qui quelques années plus tard allait créer le rôle de Carmen. Ça dit un peu le niveau de la troupe de l'Opéra Comique à l'époque. Et donc Offenbach n'a pas bridé son inspiration. Au contraire, il a composé des airs très virtuoses, en particulier pour le rôle d'Edwige, la jeune première, rôle qui est tenue au Théâtre des Champs-Élysées par Julie Fuchs, qui est absolument époustouflante d'abattage scénique, d'abattage vocal, époustouflante dans ses vocalismes. Mais ils sont tous parfaits. Saïr Attia, effectivement, ce ténor plein de grâce, de lumière, d'esprit dans le rôle de Robinson. Adèle Charvet, donc, qui chante Vendredi, qui est absolument craquante dans ce rôle travesti. Et Marc Mikowski, qui dirige cette partition avec beaucoup de soin, beaucoup d'entrain. Parfois de façon un peu clinquante, comme s'il voulait justement donner à cette musique un brio qu'elle n'a pas toujours. Mais parce que c'est un Offenbach plus raffiné que ce que lui qu'on entend d'habitude. C'est un Offenbach, effectivement, qui annonce déjà les contes d'Hoffmann.
Ouais. Emmanuel Giuliani, un dernier mot pour ça.
Je corrige ma bêtise, j'ai dit Meyak et Alioui, je veux dire Cormon, Cremieux, mais enfin, Emmanuel a corrigé. Un dernier mot peut-être pour la mise en scène, convoque des effets qui nous font rire au premier degré, avec une troupe de Donald Trump qui arrive, avec une satire de l'industrie agroalimentaire qui inciterait tout le monde, s'il ne l'est pas déjà, à devenir végétarien illico presto. Mais ça fonctionne bien, c'est très bon enfant. Et puis, cette distribution vocale qui excelle aussi tout particulièrement dans les ensembles. Il y a, par exemple, le duo formé par Marc Moyon, inutile de dire que Marc Moyon est absolument formidable comme toujours, et je ne l'avais jamais entendu, la jeune Emma Fekete, je ne sais pas comment on prononce, charmante, une voix radieuse, une comédienne pétillante, Julie Fuchs, vous l'avez dit, Laurent Naouri, qu'on retrouve avec un bonheur sans mélange. Non, c'est très très bien pour préparer Noël, tout ça.
Robinson Crusoe, l'opéra sera diffusé sur France Musique le 10 janvier à 20h. Et puis il y aura une tournée à Angers le 10 mai, à Nantes du 29 mai au 4 juin. Emmanuel Giuliani, Emmanuel Dupuis, merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture.